Chapitre 43. Anneau équatorial. Juste avant qu'il découvre la firmerie, Diamond se plaignait d'être affamé. Et c'était la vérité. Jamais il n'avait attendu aussi longtemps entre deux repas. 10 heures s'étaient écoulées depuis le dernier, consistant en une dérisoire portion de bar alimentaire.
« Il y a forcément quelque chose à manger dans cette cité !» répétait-il sans cesse.
Les trois compagnons poursuivaient leur exploration à la nage de l'habitat orbital. Au-dessus d'eux, les panneaux lumineux avaient fait place à des verrières, ce qui leur permettait de se faire une idée du lent mouvement de rotation animant l'astéroïde. La Terre apparaissait dans leur champ visuel pour le traverser lentement, illuminant de son éclat l'espace vide, les cadavres flottants, les végétaux morts et les pseudo-algues mouvantes.
« Il y a sûrement quelque chose à manger !» insista Daeman. « Des conserves, des surgelés !» N'importe quoi!
S'il y a de la nourriture ici, elle date de plusieurs siècles, répliqua Savi. Elle doit être aussi momifiée que les postes humains.
Mais si nous trouvons des serviteurs, ils nous vous apporteront à manger,
déclara Daeman, prenant aussitôt conscience de l'inanité de son propos. Harman et la vieille femme ne daignèrent même pas lui répondre. Ils arrivaient dans une sorte de clairière au sein de pseudo-algues proliférantes. L'air y semblait un peu plus dense, mais Daeman se garda bien d'ôter sa capuche. Les effluves qui lui parvenaient à travers le masque osmotique n'avaient rien d'engageant.
« Si nous trouvons un portail fax, nous l'emprunterons pour rentrer chez nous, » dit Harman.
Sa thermopeau bleue moulait un corps sec et musclé, mais Daeman distinguait sous son masque transparent des rides autour de ses yeux. Il semblait avoir pris de l'âge depuis la veille.
« J'ignore s'il y a des portails fax par ici, » dit Savi. Et même si je le pouvais, jamais je ne me faxerais. »
Harman se tourna vers elle. La Terre apparut au-dessus d'eux et sa douce lumière éclaira faiblement leur visage.
« Avons-nous vraiment le choix ? » demanda-t-il.
« Tu as dit qu'on ne pourrait pas redescendre avec les fauteuils. »
Savi se fendit d'un sourire là.
« Mon code a sans doute disparu des bases de données fax. Dans le cas contraire, son activation entraînera sûrement mon effacement. » « Et vous êtes probablement logé à la même enseigne depuis que les Voyniks ont détecté votre présence à Jérusalem. Mais même en supposant que vos codes soient toujours viables, que nous dénichions un e-fax, que nous réussissions à en comprendre le fonctionnement, car il n'aura rien d'un portail fax ordinaire, vous savez, et que je reste ici pour vous renvoyer chez vous, je ne pense pas que ça marcherait. »
Harman soupira.
« Alors il faudra trouver un autre moyen. »
Il considéra la cité enténébrée, les cadavres gelés, les pseudo-algues ondoyantes.
Ce n'est pas ce que je m'attendais à découvrir dans les anneaux, Savi.
Non, aucun de nous ne s'attendait à cela. Même de mon temps, nous pensions que ces milliers de lumières dans le ciel nocturne traduisaient la présence de millions et de millions de postes humains dans des milliers de cités orbitales.
Combien d'habitats avait-il à ton avis ?
Demanda Harman.
En plus de celui-ci.
Savi haussa les épaules.
Peut-être un seul autre, dans l'anneau polaire, et peut-être aucun. Je pense maintenant que les postes humains n'étaient que quelques milliers lorsqu'est survenu leur holocauste.
Dans ce cas, qu'est-ce que c'est que tous ces engins que nous avons vus en chemin ?
Interrogea Daeman. Cette question ne l'intéressait que modérément, mais il cherchait à se distraire de sa faim.
Des accélérateurs de particules, répondit la vieille femme. Les postes étaient obsédés par le voyage dans le temps. Ces milliers d'accélérateurs ont produit des milliers de minuscules trous de verre, qu'ils ont altérés pour les rendre stables. C'était les masses tournoyantes que vous avez aperçues à l'extrémité des accélérateurs.
Et ces miroirs géants? Demanda Harman.
Effet Casimir. Ils renvoient l'énergie négative dans les trous de verre pour les empêcher d'imploser et de se transformer en trous noirs. Si ces trous de verre étaient stables, les postes humains ont pu les utiliser pour rallier n'importe quel point de l'espace-temps, à condition d'y avoir positionné leur autre extrémité.
D'autres systèmes solaires, sans qui Harman?
Je ne le pense pas. À mon avis, les postes humains n'ont jamais lancé de sonde interstellaire. Ils ont peuplé le système extérieur de robots intelligents et auto-évolutifs longtemps avant ma naissance. Ils avaient besoin d'exploiter la matière première des astéroïdes. Mais ils n'ont jamais construit d'astronefs robotiques ou autres.
Où allaient-ils grâce à ces trous de verre alors?
Savi haussa les épaules.
Je pense que ce sont des expériences quantiques qui...
Nom de Dieu !
S'exclama Daeman, lassé par ce charabia.
J'ai faim ! Je veux manger !
Un instant, fit Herman. J'aperçois quelque chose.
Il désigna un endroit devant eux.
C'est l'infirmerie, dit Savy.
Elle avait raison. Après avoir parcouru un peu moins d'un kilomètre dans la pénombre glauque de la cité morte, évitant de regarder de trop près les momies grisâtres des postes humains qui apparaissaient sur leur chemin, ils distinguèrent avec netteté un rectangle de plastique découpé dans l'un des murs lumineux, une centaine de mètres au-dessus de leur tête. Derrière lui, ils aperçurent des enfilades de cuves de soins, emplies d'humains à l'ancienne, nus, de serviteurs affairés, Daeman faillit éclater en sanglots à la vision de leur silhouette familière, et d'autres formes se déplaçant dans la lumière crue qui éclairait les lieux.
« Attendez !»
fit Daeman. Ils avaient passé des heures à nager dans une atmosphère aussi ténue que toxique, se propulsant grâce aux plateformes, terrasses, arbres morts et autres objets solides, et il était épuisé. Jamais il n'avait fait autant d'efforts. Quoique visiblement impatiente de monter jusqu'à l'infirmerie, Savy fit demi-tour pour se diriger vers lui. Herman continua de braquer des yeux avides sur la cloison transparente. Savy tendit sa bouteille à Daeman, et il acheva leur réserve d'eau sans hésiter ni demander la permission. Il était aussi déshydraté que vanné.
J'avais promis à Ada de l'emmener avec nous, murmura Herman.
Daeman et la vieille juive se tournèrent vers lui.
J'étais sûr que nous trouverions un vaisseau spatial,
poursuivit-il d'un air penaud.
Je lui avais promis de passer par Ardis avant de la prendre à son bord.
De toute façon, elle était fâchée contre toi, lâcha Daeman entre deux hoquets.
Le masque osmotique semblait incapable de lui fournir la quantité d'oxygène qui lui était nécessaire.
Oui, fit Herman.
Savy écarta un cadavre gris et mâchonné qui venait de surgir des pseudo-algues et dont les yeux couleur de gel semblaient pleins de reproches.
« Je ne pense pas qu'Ada te serait reconnaissante de l'avoir amenée ici, » dit-elle en désignant l'infirmerie. « Mais toi, Herman, tu devrais être ravi. » « C'était bien ton objectif, n'est-ce pas ? Atteindre l'infirmerie et négocier quelques années de sursis ?»«
Quelque chose comme ça, » admit Herman.
Elle indiqua le cadavre d'un signe de tête.
« Ce n'est pas avec les postes humains que tu devras négocier, semble-t-il. »
« Penses-tu que l'infirmerie est automatisée ?» demanda Herman. « Que ce sont les seuls serviteurs qui la font fonctionner ? Qui nous faxent, nous réparent et nous refaxent le temps que s'écoulent nos mornes 5-20 ?
Pourquoi ne pas aller le découvrir par nous-mêmes ? »
proposa la vieille femme. Ils franchirent le rectangle de verre lumineux grâce à un carré de matière semi-perméable inscrit en lui, similaire au sas qu'ils avaient traversé lors de leur arrivée. C'était bien l'infirmerie. Non seulement on y trouvait de la lumière et de l'air, mais elle était en outre pourvue d'une gravité égale à un dixième de G. Daeman tomba à quatre pattes dès qu'il entra dans son champ, incapable de s'adapter aussi vite à cette pesanteur légère mais persistante. Ce changement soudain, ajouté à l'émouvante vision des serviteurs et au souvenir terrifiant de son précédent séjour en ce lieu, après l'épisode de l'Allosaure, lui coupa littéralement les jambes. Savy et Herman allaient d'une cuve à l'autre. La vieille femme abaissa son masque pour tester la qualité de l'air.
« Ténu mais puant !»
déclara-t-elle d'une voix étrangement suraiguë.
« Ils ont besoin d'une atmosphère, mais elle est trop polluée pour être respirable. Gardez vos masques !»
Daeman n'avait pas besoin d'encouragement supplémentaire, il conserva son masque. Sans daigner remarquer leur présence, les serviteurs s'affairaient devant divers panneaux de contrôle virtuel. Des fluides rouges et verts entraient et sortaient des cuves, empruntant des conduits transparents. Herman examina de près chacune de ces cuves, hautes de 3 bons mètres. Les corps humains qu'elles abritaient étaient dans leur grande majorité quasi parfaits, mais incomplètement formés. Ils avaient une peau trop lisse, un crâne et un pubis glabre, des yeux vides. Seuls quelques-uns semblaient en voie d'achèvement, mais on ne percevait dans leurs yeux qu'une vague lueur d'intelligence. Daeman suivit ses deux compagnons, restant toutefois à l'écart des cuves. En voyant ces proto-humains, il se rappela les images floues qu'il conservait de son précédent séjour et, pris d'un soudain frisson, recula jusqu'à se retrouver acculé dans un coin. Un serviteur le contourna, l'ignorant superbement.
De toute évidence, ils ne sont pas programmés pour reconnaître les humains en dehors des cuves,
dit Savi.
Si tu interférais avec leur travail, cependant, ils finiraient sans doute par se débarrasser de toi.
Soudain, un voyant vert se mit à clignoter sur une cuve abritant un corps achevé, celui d'une jeune femme aux yeux verts et aux cheveux et à la toison pubienne roux, et le fluide où elle baignait se mit à bouillonner. L'instant d'après, elle avait disparu. Quelques secondes plus tard, un nouveau corps se matérialisait à sa place, celui d'un homme livide aux yeux morts et au crâne défoncé.
« Il y a un portail fax dans chaque cuve !»
s'écria Daemon.
C'était évident, pensa-t-il. Le fax acheminait leur corps ici à chaque vin, ou quand ils étaient grièvement blessés. Ou carrément morts.
« Nous pourrions les utiliser » proposa-t-il.
« Peut-être est-ce possible ?»
dit Savi en collant son visage à l'une des cuves.
« Ou peut-être pas. » Le fax est codé pour le corps reposant dans la cuve. Le mécanisme risque de ne pas reconnaître votre code et se contenter de vous évacuer.
Les fluides colorés se mirent à baigner le nouveau cadavre. Des agrégats de petits asticots bleus jaillirent d'une ouverture, nagèrent jusqu'aux morts et pénétrèrent dans son crâne défoncé et dans ses chairs blafardes.
« Tu as toujours envie de retourner dans une cuve ?»
demanda Savi à Arman. Ce dernier se contenta de se frotter le menton et de parcourir du regard les alignements de cuves. Soudain, il tendit le bras.
« Seigneur Jésus !»
Les trois compagnons s'avancèrent lentement, mi-marchant, mi-flottant dans la gravité faible mais nettement perceptible. Daemon n'en croyait pas ses yeux. Un tiers des cuves était empli de fluide, mais vide de corps humains. Ceux-ci, ou plutôt leurs morceaux, jonchaient toutes les surfaces disponibles, le sol, les tables, les consoles, et même les serviteurs désactivés. Daemon pensa, espéra, tout d'abord, qu'il s'agissait de momies post-humaines, ce qui était déjà assez horrible. Mais ce n'étaient pas des momies, ni même des post-humains. Quelqu'un avait transformé la firmerie en buffet froid. La longue table devant eux était couverte de morceaux humains, blancs, roses, rouges, humides, sanglants, frais. Une douzaine de corps, masculins et féminins, apparemment à peine sortis des cuves, gisaient, éviscérés, vidés de leurs abats, les côtes rognées et encore rougies de sang. Une tête avait échoué sous la table, et on croyait lire dans ses yeux écarquillés le choc qu'avait ressenti son possesseur lorsqu'on avait dévoré le corps dans lequel elle était attachée. Des mains s'empilaient devant une chaise à roulettes dont on ne voyait que le haut dossier. Avant que les trois compagnons aient pu échanger le moindre commentaire par radio, la chaise pivota sur elle-même. Durant une seconde, Daemon crut que c'était un être humain qui y était assis, mais ce corps-ci était verdâtre, intact et animé. Des yeux jaunes les fixaient. Des avant-bras d'une longueur invraisemblable se déplièrent, prolongés par des doigts griffus. Une langue fourchue apparut entre des dents démesurées.
« Tu t'imagines que je suis comme toi ?»
dit l'être que Daemon identifia comme le vrai Caliban.
Tu es dans l'erreur.
Savi et Arman agrippèrent Daemon avant de filer à toute vitesse dans la firmerie et il ne cessa de hurler comme il l'avait fait lors de leur ascension en fauteuil. Ils foncèrent droit sur le mur blanc, le traversèrent sans marquer la moindre pause, les thermopaux se collèrent à leur épiderme en réaction à la baisse de pression et de température, puis se propulsèrent d'un coup de pied en direction du sol, 100 mètres en contrebas. Savi et Arman lâchèrent Daemon alors qu'ils atterrissaient sur une plateforme située 20 mètres au-dessus du sol. Il eut le temps de remarquer les momies qui flottaient un peu partout, porteuses à la gorge et au ventre de morsures identiques à celles qui marquaient les humains dans la firmerie. Se rendit compte qu'il allait vomir dans son masque osmotique, puis ses deux compagnons trouvèrent un point d'appui et se propulsèrent à nouveau dans la pénombre. Arrachant son masque d'un geste désespéré, Daemon dégobilla dans une atmosphère aussi ténue que glaciale, aussi glaciale que puante. Il sentit ses tympans et ses yeux augmenter de volume, mais remit son masque à temps, humant l'odeur de sa propre angoisse, et s'empressa de bondir à la suite de Savi et d'Arman. Pourtant, il n'avait aucune envie de courir.
Il aurait voulu se recroqueviller en position fœtale, se rouler en boule et continuer de vomir. Mais il n'était pas bête au point de croire qu'il avait le choix. Moulinant des bras et des jambes, jetant derrière lui de fréquents regards apeurés, Daïman se dépensa sans compter pour échapper à la mort. Caliban les piégea dans le coin le plus sombre de la cité, là où les bouquets de pseudo-haldes ondoyaient sous l'effet de la force de Coriolis due à la rotation de l'astéroïde. Toutes les verrières de la cité avaient été dégagées, ouvertes sur l'alternance périodique du clair de terre et les ténèbres étoilées. Caliban profita de ces ténèbres pour se rapprocher d'eux. Ils étaient blottis les uns contre les autres.
« Vous l'avez vu sortir de l'infirmerie ?» demanda Savi.
« Non !»«
Je ne suis pas retourné une seule fois, » précisa Arman.
« Est-ce que c'était un Calibani ?»
demanda Daeman. Il pleurait sans la moindre honte. Cette question représentait son ultime espoir.
« Non, » dit Savi, lui glaçant les sangs. « C'était Caliban en personne. »
« Ces cadavres ?» dit Arman. « Des 5-20 ?»«
Et aussi des plus jeunes ?»
chuchota Savi. Son pistolet à la main, elle scrutait les ténèbres derrière les pseudo-algues mouvantes.
« Peut-être que cette créature a commencé par cueillir les 5-20 »
murmura Arman.
« Mais elle a pris de l'assurance. De l'appétit. »«
Tout Jésus ! Tout Jésus !»
souffla Daeman. C'était la plus ancienne invocation qu'ait connue le genre humain, bien que le sens s'en soit perdu. Il claquait des dents comme un malade.
« Tu as toujours faim ?»
demanda Savi. Peut-être cherchait-elle à le calmer avec une dose d'humour noir.
« Pas moi. »«
Moi, si !»
dit Caliban sur leur fréquence radio. Le monstre jaillit des pseudo-algues, jeta son filet sur les trois compagnons, faisant s'envoler l'arme de Savi, et les pêcha comme des poissons.